Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 17-18 avec Maureen Wanziwilaï et Larissa Engono sur la CIR TV. Les titres du journal.
Vocational training centers in Cameroon get a boost with curricular targets that include gender courses tailored to meet the demands of the job market. The reference documents were presented today in Yaoundé.
Enseignement privé supérieur, le cours magistral sur l'université entreprise. L'appropriation du concept guide les travaux du forum des IPES à Yaoundé. Les promoteurs revisitent les défis liés à la professionnalisation des enseignements sous le cadrage de la tutelle.
A World Bank delegation is in the country to discuss schemes of speeding up development projects as well as plans to support efforts made towards accelerating the decentralization process. This is in connection with the local governance and resilient projects launched in May.
Le Cameroun, plaque tournante des affaires en Afrique centrale, donne à voir ses atouts et atours. Le Forum économique et d'investissement Acte 4 est en cours. Deux jours de changes multiformes prévus à l'agenda de cette opération de charme. C'est le focus du jour.
And in sports, Aigle of the Menwa and Colombe of the Ja and Lobo intensified training as D-Day narrows to 5 for the final of the Football Cup of Cameroon that closes the 2023-2024 sports season. These and more in our sports package, and those were our top stories.
Le 17-18, c'est 60 minutes de nouvelles et d'actu prospective sur les grands moments de la nation. Le focus du jour, le sport, l'actu internationale. Le grand reportage, l'interview et l'invité du 17-18 pour vous informer en direct du poste national de la CRTV.
Merci de nous renouveler votre confiance. Avec les niches d'opportunités qu'on lui connaît et les facilités d'investissement qu'on lui reconnaît, le Cameroun demeure une véritable terre d'attractivité. C'est un positionnement à capitaliser par les opérateurs économiques conviés au 4e Forum économique et d'investissement en cours depuis ce matin à Yaoundé. L'événement co-organisé par l'Agence de promotion des investissements et le Centre islamique pour le développement du commerce met en vitrine plusieurs secteurs d'activité, l'élevage, l'agriculture, les énergies renouvelables ou encore l'industrie, entre autres. L'événement se tient également en marge de la 50e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique. Écoutons Donatius Chinwinso Obuma, le directeur général par intérim de l'Agence de promotion des investissements.
Nous avons travaillé d'arrache-pied avec ICTD pour identifier des secteurs spécifiques dans lesquels on pouvait effectivement solliciter l'appui des investisseurs dans le monde islamique pour venir au Cameroun aussi découvrir nos opportunités et nos potentialités. Le monde islamique, où le Cameroun est membre depuis des années, regorge 56 pays et qui sont des grands pays d'investissement. Les pays du Golfe, par exemple, qui ont beaucoup d'argent, sont dans cette organisation islamique. Et le Cameroun n'a pas pu, effectivement, profiter de sa présence dans cette organisation, dans le cadre de l'impôt substitution. Donc, nous avons beaucoup parlé ici au Cameroun pour notre SND 30. Il y a pas mal d'investisseurs qui sont ici. J'ai vu les investisseurs qui sont dans le secteur de la pêche, les secteurs de l'agriculture, autant de secteurs qui nous intéressent dans le cadre de l'impôt substitution que nous avons toujours prêché.
Des propos recueillis par Priscan Djengmongolo. Le Cameroun, de par sa position stratégique dans la sous-région, est non seulement un carrefour géographique, mais surtout un carrefour d'opportunités, une destination de choix et de poids pour les investissements dans les secteurs des mines et bien d'autres. Le champ des possibles meubles, le focus du jour, on va tout à l'heure, dans une vingtaine de minutes, élargir l'angle de vue autour de cette rencontre dans le focus du jour. Bâtir une université entreprise dans l'enseignement supérieur. La thématique meuble les travaux du forum d'imprégnation des moteurs des instituts privés d'enseignement supérieur. Les assises en cours au Palais des Sports sont placées sous le cadrage du ministre d'État, ministre des enseignements, de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. Le reportage de Marie-Claire Messier-Cobena.
La professionnalisation des enseignements dans les universités privées au Cameroun est un processus qui vise à améliorer la qualité de la formation et à répondre aux besoins du marché de l'emploi. Lucien Siantou, promoteur de l'Institut universitaire Siantou.
Nous sommes dans le génie civil, le génie logistique. Nous sommes dans tout ce qu'on appelle le génie. Nous travaillons en partenariat avec l'Université de Yaoundé 1, c'est-à-dire en particulier avec l'École supérieure polytechnique de Yaoundé.
Maître Lamango Magdaline, épouse Eno, promotrice de l'Institut universitaire sous-régional bilingue à Genla Academy.
Nous étions déjà dans la logique de l'université entreprise. Comment faire pour innover sur les perspectives dans le domaine de leurs activités et pour conforter la notion de l'université entreprise au Cameroun.
Une nouvelle dynamique au cœur des travaux du forum d'imprégnation des promoteurs des instituts privés axés sur le concept université entreprise et dont l'objectif est de promouvoir l'autonomisation des jeunes.
Nous avons des projets à imprimante de laser, imprimante 3D, imprimante à stylo. Ces projets sont faits à UIC, également en prototypage. Et après, nous devons passer déjà à la phase réalisation pour la commercialisation en grande échelle.
Des défis à relever selon le professeur Jacques Famdongo et qui nécessitent les efforts conjugués de tous les maillons de la chaîne de ce secteur éducatif en vue de réduire le taux de chômage des jeunes au Cameroun.
Et dans le même sens, pour l'amélioration de la formation professionnelle des producteurs du secteur agro-pastoral, des référentiels homologués par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle ont été remis cet après-midi aux responsables en charge de la formation professionnelle. Le guide méthodologique élaboré et présenté prescrit l'intégration de l'approche genre dans le process d'accès à ces structures de formation. Toussaint Mbom, Ania nous en dit plus.
Le Cameroun veut disposer d'un capital humain de qualité et en quantité suffisante pour accélérer son processus de développement. C'est dans cette optique qu'il faut situer la mise en place de référentiels spécifiques pour les chaînes de valeur agro-pastorales dans la perspective de renforcer la professionnalisation des agriculteurs et éleveurs, booster la production locale agricole et pastorale, lutter contre le chômage, développer les circuits de commercialisation et finalement relever le niveau de revenus des producteurs. 23 référentiels ont ainsi été élaborés et homologués sous l'encadrement du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tutelle pédagogique de tous les instituts et centres de formation publics et privés disséminés à travers le territoire. Les filières prioritaires incluent la mécanisation agro-pastorale, la finance agricole, l'agroécologie, les petits ruminants, les bovins et le lait, l'anacarde et l'arachide. Quant au guide méthodologique de l'élaboration des stratégies genre dans les structures de formation professionnelle agro-pastorale, l'accent sera mis sur l'équité et l'égalité d'accès de tous à ces structures de formation tout en valorisant davantage l'insertion des femmes dans tous les circuits de production, de distribution et de commercialisation des produits agro-pastoraux.
Également présent à cette cérémonie que dirigeait le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, pour qui l'adoption de ces référentiels obéit à la loi du 11 juillet 2018, faisant de ce ministère la tutelle pédagogique des centres de formation professionnelle disséminés à travers le territoire. Issa Chiroma Bakari, je vous propose de l'écouter.
Un référentiel n'est valable que lorsqu'il est homologué par le ministre en charge. Puisque je suis dépositaire des normes, je dois attester que ce référentiel, qui est un document de formation professionnelle, il a été élaboré, conçu, mis en œuvre, essayé dans des centres de formation professionnelle et tout a été conclu de manière parfaite. C'est donc pour cette raison que les 23 référentiels qui viennent d'être remis aux chefs de département, puis aux directeurs généraux, puis aux chefs de centres de formation professionnelle sont des documents qui ont le label du gouvernement. Parce que tout enseignement qui procède donc de ces référentiels obéissent aux standards et aux normes internationales.
Issa Chiroma Bakari, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, au micro de Toussaint Mbom, Ania. Tout autre chose à présent, route à Bomban-Loumié, dans la région de l'Est, les choses s'accélèrent. Les travaux de bitumage de ce projet routier porté par le programme d'aménagement et de développement intégré de la boucle minière du Dja et de la zone frontalière adjacente, en abrégé PADI Dja, sont imminents. Les équipes multisectorielles d'évaluation des biens impactés sont déjà à pied d'œuvre de leur côté. Et c'est dans ce cadre que la commission préfectorale mène depuis ce mardi des séances de sensibilisation, question d'expliquer aux populations les contours de l'opération. D'autres détails avec Charles Labo-Soloba à Abomban.
L'équipe conduite par le préfet du Haut-Nyon, Joseph Maché, a mis le cap sur Madouma, Sokamalam, Mpemzok 1, trois villages situés sur la zone d'emprise du projet. Objectif, échanger avec les populations riveraines et leur apporter toutes les informations nécessaires à la bonne conduite des opérations d'évaluation des biens impactés par le bitumage de la route à Bomban-Lomier. Le préfet Joseph Maché.
Je suis venu leur demander d'être prêts. Tous ceux qui se retrouvent sur le corridor qui a déjà été marqué par les équipes cadastrales pourront disposer le moment venu de leur carte nationale d'identité ou de leur photocopie, d'être présents pour ne pas revenir demain. Avoir été oublié.
Les populations locales bien édifiées ont dit leur engagement à jouer pleinement leur partition dans la réalisation de ce chantier. Un projet déterminant dans le désenclavement des bassins de production agricole dans le département du Haut-Nyon.
Sa Majesté Thomas Kouébot Yannick, chef de deuxième degré des Makam Pompon. Ce bitumage arrive avec les opportunités qui tendent à venir développer tout le secteur. Nous ne pouvons qu'accueillir ça de façon salutaire.
Financé à hauteur de 106 milliards de francs CFA par la BDAC et l'État du Cameroun, ce projet routier porté par le PADI Dja entre là dans sa phase de concrétisation. À Bomban, Charles Labo-Soloba, CRTV.
D'Abomban, retour à Yaoundé et cap sur l'immeuble étoile, où des chefs traditionnels ont été reçus par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Goutte.
Members of the Ndonga Mantung Funds Union say they want to dislodge an wedge of division which some ill-intentioned individuals are trying to put between the indigenous community and the Mbororo community in their area. During a meeting with the Prime Minister Head of Government, Joseph John Goutte, today in Yaoundé, the traditional rulers, who were accompanied by the President of the Mbororo Cultural and Development Association, announced their desire to organize a peace caravan to help cement the bond of unity between the indigenous population and the Mbororo community. Here is the president of the Ndonga Mantung Funds Union, Njofo Maurice Ndi, with facts about the peace crusade.
Our purpose is to have the Prime Minister endorse our project of a meeting followed by a caravan for peace, reconciliation of the natives and the Mbororo community, which peace is to paradise. The caravan shall be organized on the 12th of October 2024 in Kambe. We will first of all organize a panel. We will develop some themes related to peace. After we will have a number of resolutions and a caravan, we will finish with a declaration in Kambe. Since the crisis, groups of unidentified young men interfere, claiming to belong to Mbororo or to belong to the natives. So the meaning of our caravan is to tell them that we, the natives and the Mbororo community, we are one, and that our peaceful coexistence that has existed must continue. We are all brothers. We have been living together for centuries, so we don't have any problem with them. The Prime Minister has been very happy. He has appreciated the initiative. You know him, he's a peace crusader. So he said that anything concerning peace will have his own support.
The president of the Ndonga Mantung Funds Union, Jofo Maurice Ndi, talking to our star building correspondent, Christian Chatham. On to one of our top stories. Vocational training centers in Cameroon have been equipped with 23 curricular courses and a gender methodological training guide to enhance training that aligns with labor market demands. The reference documents were presented at the ceremony this afternoon in Yaoundé, attended by ministers in charge of agriculture, vocational training, livestock and women's empowerment, alongside representatives from the German Development Agency, GIZ. Vocational Training Minister Issa Chiruma Bakari described the manuals as a major boost to Cameroon's vocational training sector. Take a listen.
I am repository of norm
and standard. A referral to be worthy of consideration has to bear the signature of Minister in charge of vocational training. The purpose of this ceremony is to testify that whatever has been done, all decisions which have been taken, were done with respect to norm and standard. From now onwards, our vocational training centers with those referrals have to keep in mind that they have to obey and respect the norm and standard.
Vocational Training Minister Issa Chiruma Bakari talking to our reporter Hortensia Ngam, who attended the handing over ceremony and put together the following report.
The 23 training curricula covering agriculture, livestock, rural finance and agroecology, as well as the gender methodological training guide, are initiatives led by the German Corporation, GIZ, and the Cameroon government. They aim to promote rural and gender-balanced development in Cameroon through world-class training that meets global labor market demands. The head of cooperation at the German Embassy in Yaoundé, Knut Gumet, highlights the significance of the documents.
Men, women, and especially the young population can have access to trainings to improve their skills, to improve their economic abilities. And on top of that, we're working on the value chain to make sure that there are markets, financing. There are the tools farmers and livestock breeders need to be more productive. And in the big step, they contribute to the development of Cameroon.
During the ceremony, the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Bairobe, highlighted that the training manuals will equip learners with skills in line with international standards. He urged both public and private vocational training centers to work together for the implementation of these manuals across all vocational institutions in the country.
The construction of the Abongbang Lomie Road is set to begin soon, marking a major milestone in the development of the Upper Nyong Division. The infrastructure project, worth 106 billion CFA francs and spanning 123 kilometers, aims to provide regional connectivity and facilitate economic growth. A team from the Support Program for the Development of Inclusive Communities around the Ja Fono Reserve, known as Padi Ja, led by the Senior Divisional Officer of Upper Nyong, Joseph Bertrand Maché, is currently sensitizing the communities about the road project and addressing any concerns regarding compensation for properties that may be impacted. Rita Yoesembom reports from Abongbang.
This is Maduma, one of the villages along the road corridor, and the senior divisional officer is explaining to community members and traditional authorities that certain homes will be impacted by the road construction. They are assured that while some properties will need to be demolished, all affected homeowners will receive compensation. Joseph Bertrand Maché, accompanied by local and traditional authorities, has advised property owners to prepare by ensuring they have photocopies of the identification documents ready to facilitate the compensation process when the time comes.
I'm here with this committee to tell them how to behave during the evaluation by the committee and to collect their peculiar problem in link with the project.
Next, the team visits Sokamalam, where they reiterate the importance of the road's development and urge local populations to embrace the project. In Pemzok, the same evaluation and sensitization efforts are carried out. Villagers express concerns about compensation, raising questions about the timeline and fairness of the process. But the officials once again confirmed that the destruction of property would be followed by just compensation and assured transparency in the procedure. Work sessions will continue this Wednesday in the localities of Minduru and Lumye as the team progresses with evaluations. Rita Yosembom reporting from Abongbang.
Stakeholders in town planning and urban development in Cameroon are brainstorming on solutions to poor town management to make Cameroon's cities veritable tourist destinations and safer for citizens. The discussion is taking place in a symposium organized by the Urban and Rural Lands Development Authority, MITUR. It's presented or presided over by the Minister of State Property, Surveys and Land Tenure, Henri Eyebi Aisi. Joyce Cliff Tata.
The two-day symposium on urban modernization in Cameroon is a conclave professionals in the sector intend to use to propose concrete ways of establishing better planned and productive cities. This while reviewing the pitfalls delaying proper town planning.
Bong Michael Mbine, I'm the Deputy General Manager of MITU, intended to get lasting solutions to the urban problems that we are facing with regards to communication, housing, and with regards to easy movement in our cities that are being highly populated today, and to sensitize the population on the way to occupy various space in our cities.
The experts insist that the population needs to be aware of the regulations about where and where not to build houses.
Remy Sitokin, I'm the Chief of Policy, Legislation, Governance at UN Habitat.
Those issues are complex. It's not only the government, it's a civil society, they are professional, they are investment, their development partner, and us who have to play our role. Then we will erase all the challenges in terms of flooding, traffic jam. I think it's really critical that the basis are set.
With the rapid demographic growth the country is experiencing, town planners believe the mapping of cities should be defined ahead of time to avoid the ongoing disorder.
Talking about town planning, the Southwest Regional Capital, Boya, reportedly runs the risk of floods due to the heavy rains and as a result of human activities, meteorologists have issued the warning pointing to the construction of houses on waterways, especially at the foot of the mountain, and the persistent damage to the forest. As Annabel Ndike reports, there are plans to curtail the scope of the disaster.
The town of Boya for close to a decade has experienced an influx of people, which has led to the increase of urban disorder, such as the construction of houses on waterways, poor disposal of waste in gutters, among others. A situation which, according to the second deputy mayor of the Boyo Council, Mukasa Edward, can lead to floods and other hazards.
Taking into consideration its geographical location, is prone to issues of waterways.
He adds that the Boyo Council has put in place measures to stop the phenomenon.
We have been carrying out reforestation at the mountain and advising the population not to carry out illegal logging. Council will be working with our technical service, maybe demolishing after due notification. We have been sensitizing them not to dump waste on gutters, because if they do so, it will block waterways.
The population of Boya is therefore called upon to respect the laws put in place to avoid exposing the lives of the people at risk. Annabel Ndike, Enwanyang, CRTV, Boya.
5:23, you're listening to the 5 to 6 p.m. on the national station of the CRTV. On today's press release, the chairman of the National Anti-Corruption Commission, Reverend Dr. Dieudonné Massigams, informs the national and international public that in compliance with the provisions of Article 24, paragraphs 3 and 4 of its constituting text, CONAC will publish Cameroon's 2023 Anti-Corruption Status Report on Thursday, 26th September, 2024. The official publication will take place in the inaugural hall of the Yaoundé Conference Centre at 11 a.m. The chairman of the National Anti-Corruption Commission also informs the public that this official presentation ceremony is open to anyone wishing to attend. A press release signed by the chairman of the National Anti-Corruption Commission, Reverend Dr. Dieudonné Massigams.
Dieudonné Massigams, le président de la Commission nationale anticorruption. dont l'institution rendra public le rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2023, en application des dispositions de l'article 24, alinéa 3 et 4 de son texte organique. Le révérend Dieudonné Dr Massi Gams, président de la CONAC, qui annonce cette activité en perspective, précise par ailleurs que la cérémonie solennelle de présentation du dit rapport est ouverte à toutes les personnes désireuses d'y prendre part. On en sait un peu plus sur les faits d'agression enregistrés vendredi dernier à Douala par des délinquants et autres malfaiteurs opérant sous le vocable de « microbes ». Plusieurs sont aux arrêts et le fléau sera purement et simplement éradiqué. Assurance du gouverneur de la région du littoral. Samuel Dieudonné Ivara Dibois était face à la presse ce jour dans une posture de clarification de l'opinion et de fermeté face au hors-la-loi. Napoléon Bonaparte Besson de Ciartivi Littoral, reportage.
Bien qu'il soit une pratique sporadique, spontanée et speed, le phénomène des microbes provoque la scose dans la ville de Douala. Mais l'éruption de ces délinquants vendredi dernier a mis les autorités en alerte et le coup de filet est conséquent. De quoi rassurer les populations? Samuel Dieudonné Ivara Dibois, gouverneur de la région du littoral.
La première soirée après l'incident, deux assaillants ont été pris par nos forces de l'ordre et sont passés aux aveux. Nous sommes également allés vérifier au niveau de la PJ où ils étaient et ils ont promis coopérer. À ce jour, nous nous retrouvons avec 8 assaillants qui sont tous passés aux aveux.
Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, invite par ailleurs les populations à être très sereines.
Force restant à la loi, que les populations de la région du littoral en général et celles de Douala en particulier aient confiance aux forces de sécurité.
À pied comme à moto, armés des lames de rasoir ou couteaux tranchants, ils débarquent là où personne ne s'y attend. Pour combien de temps encore, eu égard à l'alerte sécuritaire des autorités qui sont vent debout contre ces jeunes délinquants. Douala, Napoléon Bonaparte Besong, CRTV.
Et sur le front de l'assainissement de la ville de Yaoundé, cette fois, le gouverneur de la région du centre, pour sa part, Nasseri Paul Béa, effectuait ce mardi une mission de contrôle de l'effectivité du respect des mesures d'hygiène et de salubrité dans la commune d'arrondissement de Yaoundé, 4e. Gabriel Minkand, notre reporter, y était.
Maintenir Yaoundé la capitale politique du Cameroun propre est une affaire de tous. C'est à la fois une préoccupation et une exigence des pouvoirs publics. Le gouverneur de la région du centre est à cet effet en mission de contrôle dans les différentes communes d'arrondissement de la cité capitale. Nasseri Paul Béa était ce mardi à la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e.
Encourager et féliciter la population de Yaoundé. J'ai une bonne impression que si ça continue comme ça, en fin d'année, nous allons nous trouver dans une situation acceptable, abordable pour tout le monde de passer très bien la fête de fin d'année.
Le maire a profité de cette occasion pour décliner les mesures appliquées dans sa commune pour la maintenir propre. Gabriel Efila, maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 4e.
Qui dit hygiène et salubrité dit également santé des populations. Raison pour laquelle je tiens énormément à ce que ces comités d'hygiène et de salubrité soient établement efficaces sur le terrain.
Vivement que cet engouement perdure pour une capitale toujours propre. Gabriel Minkandé dans le centre.
La mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux, Maïture et l'ONU Habitat mutualisent leurs efforts pour améliorer le niveau de compétence des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets urbains. Ils sont réunis à Yaoundé à la faveur d'une réflexion ouverte par le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières. Henri Ehébéa, ici, parrain de l'événement, avait à ses côtés le président du conseil d'administration de la Maïture, Jamal Moustapha, à l'ouverture des travaux. Le reportage de Rose Coco.
La croissance démographique explosive au Cameroun impose une modernisation urbaine urgente avec 65% de la population urbaine vivant dans des bidonvilles. C'est dans ce contexte que la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux a organisé un symposium à Yaoundé afin de réfléchir aux solutions pour des villes attrayantes et compétitives. Lui, Roger Manga, directeur général.
Nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions nous asseoir pour réfléchir ensemble, qu'il faut déjà qu'on crée des cadres de vie structurés et bien organisés. C'est des milliers et des milliers d'hectares que nous allons mettre à disposition pour ensuite les aménager progressivement.
Le symposium réunit les responsables de l'ONU Habitat et les acteurs du développement urbain. Ils vont, durant 2 jours, échanger sur les approches innovantes en matière de restructuration urbaine. Mathurin Polna, secrétaire général du ministère en charge de l'Habitat.
Ces assises, à mon sens, permettent d'aboutir à des efforts communs pour adresser de manière collégiale cette affaire de la modernisation, qui est un problème qui exige une action concertée entre les acteurs.
En ouvrant les travaux, le ministre Henri Eyebéaïssi a rassuré la mâture de l'accompagnement du gouvernement dans la réalisation des projets de développement urbain, notamment en ce qui concerne la sécurisation des assiettes foncières.
Organisation des élections, le Tchad, à l'école de l'expérience d'Elections Cameroun. Les membres de l'Agence nationale de gestion des élections du pays de Toumaï étaient cet après-midi au siège d'Elecam à Yaoundé pour une séance de travail avec le président du conseil électoral, Eno Abrams Egbe. Et sur les premiers enseignements de cette rencontre, écoutons les explications du chef de mission de la délégation tchadienne, le professeur Ousmane Koudangbe Rouzibé, est au micro d'Ibrahim Mohamed Abassi.
On a été dépêché ici auprès d'Elections Cameroun pour puiser les expériences en matière de scrutin couplé. Le Tchad veut organiser des élections couplées, c'est-à-dire législatives, provinciales et municipales. Le scrutin est prévu pour le 29 décembre 2024. Nous avons constaté que Elecam est une institution très bien organisée. Donc le Cameroun, qui est un pays grand frère en matière électorale, nous sommes venus en tant que petit frère, pays voisin, apprendre quelques expériences que Elecam a déjà eues dans le couplage des élections. On a pu saisir quelques rudiments qui vont nous permettre d'outiller le système électoral tchadien et de renforcer surtout la matière électorale dans l'organisation des scrutins couplés. Nous comptons organiser législatives provinciales et municipales. Donc c'est une expérience qu'il faut rechercher des leçons et renforcer le système électoral tchadien.
17h31, vous êtes sur le poste national et vous écoutez le 17-18. Maureen, une mission de la Banque mondiale, nous l'annoncions en titre, est en séjour au Cameroun.
A World Bank mission is in Cameroun, Larissa, to discuss plans to back up Cameroon's development efforts. This is within the framework of a scheme that was launched in May, known as Local Governance and Resilient Community Projects. Members of the mission were granted an audience with the Minister of Decentralization and Local Development, Georges Elanga-Obam, with whom they talked about supporting Cameroon's decentralization process. Helen Nwidini tells us more.
The project on local governance and resilient communities, PROLOG, aims to pursue local planification and to reinforce government's efforts towards the development of local communities through councils and the local population. The Regional Director for Sustainable Development for the Western and Central African Region at the World Bank, Shakib Jenan, states how the PROLOG project shall unfold in the coming days.
Basically, what we agreed on was how we could make sure that we process with the next steps, which is basically the transfer of funds so that realization on the ground can happen, like hard investments and so on. So it will be a lot of medium-sized to small-sized investments, infrastructure, and that will basically be put in motion in the next few months. So now the teams are ready to start.
The local authorities and population have been encouraged to open their doors for development and participate in the exercise. The World Bank has promised to disburse funds for the continuation of the project.
A network of 4 youngsters specialized in the production of fake official documents and stamps have been apprehended in Yaoundé. Meanwhile, 2 other men who pretended to be taxi drivers in Obala were caught as they attempted to rob a group of people on a motorbike. Here is the report with Maimouna Njoya of CRTV Center.
Not all documents you come across are authentic, and this has been verified with the young student who was trying to apply for a job in a banking institution. He was in possession of a pile of fake documents and was attempting to carry out his usual activities together with 3 other accomplices between 22 and 31 years old. Elements of the 1st Gendarmerie region in Yaoundé succeeded to uncover this gang, which happens to have been producing hundreds of fake documents, stamps, national identity cards and birth certificates at Poste Centrale and Pharmacie du Soleil, which are well-known areas in Yaoundé. Meanwhile, elements of the gendarmerie in Obala have caught two men in the persons of Jean-Ronald Bediga, aged 27, and Frank D. Esama, aged 38, who usually used a vehicle they would call a normal taxi to rob people. Unfortunately for them, they got caught just at the time they were trying to rob three people on a motorbike. Maimouna Njoya, CRTV Center.
Youth aspiring to join the Audiovisual Heritage Training and Conservation Institute, EFCPR, from the Northwest region have underscored the need to improve on the audiovisual landscape of the region, which is witnessing a boom with multiple opportunities. This was the key, took part in the 2024 competitive entrance examination at the CRTV Northwest Regional Station. Veronica Aje.
As early as 7 a.m., candidates were already sitting in the newsroom of CRTV Northwest, set for the exam ranging from general knowledge to archiving. The candidates say training with a team of professionals at the Audiovisual Heritage Training and Conservation Institute, EFCPR, will improve on the quality of content produced in the Northwest, which is making its mark in the audiovisual landscape in Cameroon. Nkengafak Lionel is one of the candidates.
As an internal candidate, it will enable me to move from a strictly clerical job to a more technical artistic job.
For this 2024, the chief of production at CRTV Northwest, who doubles as focal point, Laurent Togué, indicates the turnout was encouraging amid the security context.
Despite the difficult security constraint, we had some candidates who answered present. We have an internal candidate who has written in the GRE sector.
After 2 weeks of intense preparation, these candidates are now hopeful to be part of the program, which will improve their knowledge in audiovisual, archiving, backpack journalism, and more. Veronica Aji, CRTV News, Bamenda.
From the Northwest to the littoral region, where users of mobile telecommunication networks in Douala have complained of the poor network noted during communication, they have also called on providers to review their policies. Kola Maloke spoke to some of them and compiled this report.
Allô, allô, je ne vous écoute pas. S'il vous plaît, veuillez parler de façon un peu plus audible.
Having a fluid network connection during phone calls or while surfing the internet is something which users say is hard to come by. Though at times connection can be good, at other times it is something else, as this user explains.
The service is okay for quite a long time. But only this last week and this week that the reso started disturbing. It doesn't function very well as it is before. If your people can change or can add more power, it's working like before. It'll be okay.
This issue becomes more worrisome at the end of the day as customers complain of high bills for poor network connection.
You charge your phone but you don't have a network and only discover that your airtime is exhausted. You cannot even use 1,000 francs to call 10 people.
In order to circumvent the poor network connection, startups and other enterprises that rely on internet connection to do their businesses are forced to use more than one network at a time.
Recently, we bought a modem and got connected to a network which wasn't satisfactory. We had to get another network.
As the network connection problem persists, users in Douala are calling on the mobile telecommunication network providers to review their policies. Skola Maloke, CRTV News, Douala.
Dans le registre des efforts visant la promotion de la coexistence pacifique et le vivre ensemble, la caravane de paix et de réconciliation des filles et fils du Ndonga Mantou avec la communauté Mbororo est annoncée pour le 12 octobre prochain. Message porté au Premier ministre chef du gouvernement par les Fonds du Nord-Ouest, reçu en audience cet après-midi à l'immeuble Étoile. En prélude à l'événement, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gauté, a salué la belle initiative du Vivre Ensemble, l'un des piliers essentiels d'un Cameroun meilleur et nouveau, et de la relance des activités socio-économiques longtemps mises en berne dans le Ndonga Mantou. Nous y reviendrons. En perspective, symposium hommage au regretté professeur Joseph Mboui, ancien ministre de l'Éducation nationale. Ce sera à Yaoundé du 16 au 19 décembre prochain. Annonce faite au siège du CERF d'Otola à Yaoundé à la faveur d'une réunion scientifique entre les membres du comité scientifique de ce symposium. La rencontre entend saluer l'œuvre de ce grand enseignant et chercheur qui aura marqué de par son expertise scientifique de nombreuses générations de Camerounais. Il a notamment été doyen honoraire à l'Assemblée nationale pour le compte de la législature 2013-2020 et doyen de la Faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de Yaoundé 1.
Get the latest news in Cameroon, Africa and the world only on the 5 to 6 p.m.
Thanks for staying with us. We do value your decision to listen to the CRTV as we get into the magazine segment of the 5 to 6 p.m. Cameroon is making moves towards attracting investors, many of whom are from member countries of the Organization of Islamic Cooperation, OIC. The financiers and business people are exploring the investment opportunities in the country at the 4th Economic Development Forum taking place in Yaoundé under the theme Investing in the New Cameroon, Land of Attractiveness, an opportunity for today's focus of the day to discuss government's efforts to create an auspicious climate for doing business in Cameroon. Follow our exchange with Oswald Medung right after the break.
Oswald Medung, chef du service économie à la direction des rédactions radio. Bon après-midi.
Bon après-midi, Larissa. Hello, Maureen.
On parle du Cameroun comme une terre d'attractivité pour les investisseurs. Alors, question, le contexte y est-il vraiment favorable?
Écoutez, Larissa, des réformes particulières ont été mises sur pied pour améliorer justement le climat des affaires au Cameroun. C'est le résultat d'un travail en synergie qui a mis d'un côté les pouvoirs publics et de l'autre les acteurs du secteur privé. Ce sont au total 5 grands axes de réformes qui ont ainsi vu le jour. Les réformes institutionnelles qui présentent les institutions dont le Cameroun s'est doté pour accompagner le développement du secteur privé. Les réformes juridiques qui renvoient aux textes juridiques et qui régissent le secteur de l'économie au Cameroun, les réalisations infrastructurelles portant sur quelques grands projets d'investissement déjà réalisés, les réformes du cadre Doing Business déjà mises en œuvre, classées suivant les critères de la Banque mondiale, et puis enfin, les guichets pour faciliter l'accès au financement des entreprises.
Au-delà de ces données, Oswald, notons que les réformes institutionnelles sont également ici un atout majeur.
Pour ce qui est des réformes institutionnelles, Larissa, le Cameroun s'est doté des objectifs de développement bien précis en vue d'atteindre la vision 2035. Et dans ces objectifs, le pays a choisi de faire du secteur privé le secteur de la croissance économique et de la création d'emplois. Diverses institutions ont ainsi vu le jour, à l'instar de l'Agence de promotion des investissements, la Banque des petites et moyennes entreprises, le Comité de compétitivité, le Centre de formation de création d'entreprises, le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, le Bureau de mise à niveau des entreprises, le Guichet unique des opérations du commerce extérieur ou encore l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises et on ne va pas oublier le Centre de gestion agréée de la Bourse de sous-traitance et partenariat et j'en passe.
Un environnement propice aux investissements, Oswald, demande tout de même des textes juridiques efficaces.
Tout à fait, Larissa. De nombreux textes sont en application au Cameroun sur le plan juridique pour réguler le climat des affaires. Il y a par exemple le Code général des impôts, le Code des douanes de la CEMAC, les lois de finances dont plusieurs dispositions sont permanentes, la circulation annuelle de l'exécution du budget qui donne la position exacte et officielle concernant les transactions réalisées par l'État. Il y a par ailleurs aussi un cadre juridique des zones économiques avec des lois et décrets qui s'appliquent au Cameroun. Dans le souci d'augmenter le potentiel de croissance de son économie et par la même occasion favoriser le développement du secteur privé, Larissa, le Cameroun a réalisé d'importants projets d'investissement dans divers domaines tels que l'énergie, l'eau, les transports ou encore l'agriculture. À côté de cela, il y a des guichets de financement pour faciliter l'accès au financement, notamment pour les entrepreneurs locaux. Et le secteur qui n'est pas en reste et pas des moindres, c'est toutes ces réformes instaurées dans le cadre du Doing Business, avec pas moins de 9 réformes majeures destinées à protéger les investisseurs et assurer leur implémentation sur le territoire camerounais. On peut citer, par exemple, toutes ces facilités en matière d'obtention du permis de bâtir, le transfert de priorité, l'efficacité dans le paiement des impôts et bien d'autres facilités du genre. C'est dire si l'environnement camerounais est pensé pour attirer les investisseurs.
Voilà donc pour ce qui est des éléments de contexte. Merci Oswald. Le Cameroun est en mode de séduction, on le rappelle, à la faveur de l'ouverture de la Cameroun Investment Forum, une fenêtre qui s'ouvre sur le potentiel économique du pays. Pendant 2 jours, près de 500 investisseurs d'ici et d'ailleurs sont à Yaoundé à l'effet d'échanger et de s'informer sur les opportunités d'affaires qu'offre le pays, en cohérence bien sûr avec la SND 30, la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030.
News out of Cameroon, over 1,000 inmates who are seriously ill in the most notorious prisons in the Democratic Republic of Congo have been released to tackle overcrowding. The release began at the Makala prison in the capital Kinshasa on Sunday. The government pledged to speed up its plans to decongest the prison where conditions have been described as hell.
Et puis des tempêtes de neige anormalement tardives sont enregistrées dans les régions côtières d'Afrique du Sud, faisant au passage 2 morts. Fin de l'utilisation également de la pratique du suicide assisté à l'aide de la capsule Sarko en Suisse après l'arrestation de plusieurs utilisateurs. Le développement de ces informations et de bien d'autres avec Lucrèce Ndongo-Meyeux, stagiaire de l'ESTIC.
En Afrique du Sud, une violente tempête de neige fait 2 morts ce 24 septembre. De fortes chutes de neige survenues dans la région de Durban ont provoqué d'importantes perturbations. Ceux-ci ont laissé de nombreux automobilistes pris au piège pendant près de 2 jours, entraînant ainsi la fermeture de certaines des principales autoroutes du pays. Arrestation de plusieurs personnes dans le nord de la Suisse après l'utilisation d'une sorte de sarcophage qui permet de sauter soi-même la vie sans une aide médicale. Leur arrestation a été annoncée par la police du canton de Schaffhouse. Le parquet a ainsi ouvert une procédure pénale contre plusieurs personnes pour incitation et aide au suicide. Aux États-Unis d'Amérique, la lutte contre la pollution plastique continue. L'État de Californie a lancé hier, 23 septembre, des poursuites contre le pétrolier américain ExxonMobil, accusé d'avoir mené des campagnes trompeuses sur le recyclage du plastique.
A long-distance bus has been attacked by gunmen in South Sudan on a main road south to the capital, Juba, leaving at least 1 person dead and several others kidnapped. The passenger vehicle heading for the Ugandan capital, Kampala, was targeted this morning. Despite a peace deal being in place to end years of civil war in South Sudan, insecurity remains a problem in most parts of the country. Time for us to talk sports. Austrian senior reporter Simon Lyonga into the studio. Hello, Simon.
Hi there, Maureen.
The countdown of the ceremony to close the 2023-2024 sports season is on as the two teams to play the cup final in football intensify preparations in Yaoundé.
Sunday's game will be an all-time classical with two teams who have never had a taste of winning the country's most coveted football trophy. Aigle of the Menua, founded in 1932, and Colomb of the Giant Lobo, created in 1953, are thereby laying down possible strategies to win the maiden trophy, but also close the sports season in grand style. Ben Collins, Nyoiberiwo, has more on the two clubs.
Aigle Royal of the Menua and Colomb Sportif of the Jar and Lobo seeking their first trophy of the Cup of Cameroon returned to the pitch after more than 3 months following the semi-finals. After 92 years, Aigle reached their third Cup of Cameroon final by defeating regional side Mintak Football Club from the Upper Sanaga in the Central Region at the semi-finals. Aigle Royal, founded in 1932, seeks redemption in their third Cup of Cameroon final after losing to Tonne Kalara Club of Yaoundé in 1958 and Coton Sport of Garoua in 2008. El Pacha has another chance to end their 92-year wait for the title, easing frustration of loyal fans. For their opponents, Colombe Sportive of the Jar and Lobo, this marks a historic milestone. Their first ever Cup of Cameroon final appearance. Founded in 1953, Colombe Sportive made its Elite One debut in 1961 and later experienced a decline. After a 23-year absence, the team returned to top-flight football in 2017. Their highest achievement to date is a fourth place finish in the playoffs of the last First Division Championship in Cameroon. This Sunday, both sides face off in a battle for supremacy. The match and the closing ceremony to end the sports season promise to be a celebration of national unity and an opportunity for fans all around the country, especially from the South and West regions, to show their pride and support for their local heroes.
Ben Collins, Nyoeber War reporting. Canon of Yaoundé, which should be noted, Maureen, holds the record of wins at the final of the Cameroon Cup. They have won 11 trophies. Coton Sport of Garoua have 7 on the second spot. And Union Sportive of Douala have 6 trophies won, and they are on the third spot. To note that just 25 clubs have won the trophy in 62 finals played since Kaimang of Douala won the first edition. That was in 1941. That's before the independence of Cameroon, Maureen.
And we remain in football, Simon, as the under 20 Lions round off their third training session in Brazzaville ahead of the start of the Central African Football Trophy that opens tomorrow.
Team Cameroon will feature in Group B and open their competition on Thursday against the Central African Republic. Harrison Ashutiko with more.
Lodge in Pool B alongside Central African Republic and Gabon, the under 20 Lions will this Thursday attempt to secure their first win at the UNIFAC qualifiers against Central African Republic ahead of the match that will be played at the Masamba Deba Stadium in Brazzaville. Nathan Douala and his teammates had their second training session in the capital city of the Republic of Congo this Tuesday. In the meantime, the host country, the Republic of Congo, the Democratic Republic of Congo and Guinea make up Pool A following the withdrawal of Chad. The competition begins this Wednesday with Group A matches. The host country, the Republic of Congo, will play against the Democratic Republic of Congo while Guinea is on standby. The best two teams in the tournament will qualify for the 2025 Under-20 AFCON.
And that's Under-20 AFCON, which is also the qualification stage for the World Cup of that category, will be played next year in a country that is still to be chosen by the African Football Confederation, Vanessa.
Et Simon, signalons que les membres du bureau exécutif du Comité national olympique et sportif du Cameroun étaient en conclave ce mardi au siège de cette institution au quartier Nkoleton à Yaoundé, à l'effet d'évaluer les préparatifs de la 8e édition des Dixiades. Compétition prévue du 11 au 22 décembre prochain à Yaoundé. Le logo des Jeux a été choisi à l'unanimité des membres présents qui ont également identifié les sites de compétition et d'hébergement de ce rendez-vous sportif et culturel des jeunes des 10 régions. Simon, les travaux étaient dirigés par le président de l'instance en présence du ministre Grégoire Ogona, coordonnateur général des Dixiades. Autre enjeu du conclave, l'évaluation du mouvement sportif et olympique national au lendemain des Jeux olympiques Paris 2024. Écoutons à ce sujet Ahmad Kalkaba Malboum, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, dans cet extrait de déclaration à la presse sélectionné par Samuel Billon.
C'est d'abord la session, la dernière de l'Olympiade 2021-2024, puisque l'Olympiade est clôturée après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Nous n'avons pas pu faire l'évaluation complète de notre participation parce que nous souhaitons faire une évaluation approfondie avec toutes les parties prenantes au processus, les fédérations, le ministère, les athlètes eux-mêmes et nous-mêmes pour essayer de voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché et comment planifier l'avenir. Mais au-delà, nous observons que malgré le fait que le mouvement olympique camerounais soit debout, stable et performant, il existe quand même des problèmes qu'il faut résoudre. Le premier problème, c'est que de moins en moins, les gens respectent les valeurs du sport et les valeurs éthiques. Et même quand des personnes ont été sanctionnées pour violation de l'éthique, ces sanctions n'ont pas d'effet. C'est une sorte d'affront et de rébellion face à la règle. Je crois que c'est un problème pour notre mouvement olympique. Le sport a besoin de personnes qui se mettent ensemble, qui discutent sur la bonne marche de l'activité pour en fin de compte trouver les bonnes solutions pour que l'athlète soit dans un environnement qui lui permette d'être serein, ce qui n'est pas toujours le cas.
And finally, Simon, Sambo on our menu. 10 countries have confirmed their presence in Yaoundé for the maiden edition of the ECA Sambo competition that will kick off on Saturday.
The 10 delegations begin arriving in the country tomorrow morning, coming from the members of the Economic Community of Central African States, and they bring along the best Sambo athletes of the sub-region. Reasons for the intensive nature of the training sessions of Team Cameroon, the objective: host and win the first edition and mark their territory. Maître François Mbassi is the president of the Cameroon Sambo Federation.
This training camp is an occasion for all our athletes to acquire the skill to compete and win medals. I think that everything is moving on as planned.
Everything is moving on as planned, Mr. President, but we can imagine the pressure is mounting given that it is the first edition of the ECAS International Sambo Open.
It is the first edition. That is why you want this...
In terms of organization.
In terms of organization, we want to succeed in everything because when International Federation of Sambo give you an opportunity to organize, it means that you think that you are capable of doing it. Our hope is to succeed in terms of organization.
That's a sports package for the 5 to 6 p.m. today. Senior reporter Simon Lyonga, thank you very much.
Always my pleasure, Maureen.
And now to end the 5 to 6 p.m. a recap of our main stories. Vocational training centers in Cameroon get a boost with curricular targets that include gender courses tailored to meet the demands of the job market. The reference documents were presented today in Yaoundé.
Le Cameroun, plaque tournante des affaires en Afrique centrale, donne à voir ses atouts et atours. Le Forum économique et d'investissement Acte 4 est en cours depuis ce matin. Deux jours de contacts et d'échanges multiformes prévus à l'agenda de cette opération de charme.
And the World Bank delegation is in the country to discuss schemes of speeding up development projects as well as plans to support efforts made towards accelerating the decentralization process. This is in connection with the local governance and resilient projects launched in May.
Et puis Sport Dixia de 2024, la compétition aura lieu du 11 au 22 décembre prochain. Le logo des Jeux et les sites de compétition et d'hébergement sont connus. Ahmad Kalkaba Malboum, le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, présidait cette mi-journée une rencontre préparatoire. C'est tout pour l'actualité de ce soir avec Maureen Mwanzibilai et Larissa Ngono. On se retrouve demain dès 17h. D'ici là, prenez soin de vous à l'écoute du Poste national.